carrefour des arts. Théâtre et patrimoine, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Michel Aumont, grand comédien, comme l'atteste de la manière la plus simple le fait qu'il ait été lauréat de 4 Molières. Michel Aumont, qui est avec Michel Duchaussois à l'affiche de l'excellent Théâtre de l'Œuvre, dans une pièce de Lionel Goldstein intitulée « David et Édouard » et mise en scène par Marcel Bluval. C'est l'histoire de la rencontre dans un cimetière de deux hommes qui pourraient finir leur vie accablés par la disparition d'une même femme, mais qui vont sans doute trouver une forme de sérénité dans une amitié singulière, nourrie par une intimité profonde, progressivement partagée. Je le dis sans grand risque de me tromper, cette pièce restera très probablement comme l'un des deux ou trois principaux événements de l'année théâtrale 2009-2010. Michel Aumont, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Au fond, vous êtes né dans un berceau de théâtre.
On peut dire ça. Ma mère était comédienne, donc elle s'appelait Hélène Gerbert. Bon, elle n'a pas accédé au vedettariat. Elle fait surtout du théâtre et assez peu de cinéma. Mais à une époque, elle était très bien considérée dans les milieux du théâtre. Elle a notamment été 10 ans chez Charles Dullin. Puis après, elle a travaillé avec Jean Villard. Ils ont joué ensemble la Danse de mort de Strindberg pendant l'occupation. C'était en 42-43, je crois. Et ça avait été un gros succès. Beaucoup de gens âgés, évidemment, se souviennent, dont Marcel Bluval, qui a vu ce spectacle, s'en souviennent comme d'un très grand spectacle. C'était très beau.
Et votre père était directeur de scène à la Comédie-Française, c'est ça?
Oui, il était...
Qu'est-ce que ça veut dire, directeur de scène?
Il n'était pas directeur de scène.
Non, il n'était pas directeur de scène.
Non, c'est ce qu'on confond parce que ça s'appelait régie. Il était à la régie administrative. Au français, la régie administrative, c'est une sorte de poste d'aiguillage d'où on contrôle tous les mouvements de la maison, les convocations, répétitions, etc. Et voilà, c'était ça. Il était régisseur administratif. Mais le régisseur de scène, c'est différent. C'est celui qui est sur le plateau, qui s'occupe matériellement du spectacle.
Alors, à 5 ans, semble-t-il, vous avez vu jouer Dullin. Vous avez accompagné votre mère en Avignon dans la première interprétation du Cid en Avignon. Vous avez connu Villard, vous avez connu Gérard Philippe. Est-ce qu'on peut dire que la vocation de comédien vous est venue quasi naturellement?
Je crois qu'on peut dire ça, oui. Ma mère m'a placé dans des petits spectacles assez tôt. Je jouais des enfants. J'ai commencé, je vais avoir, je sais pas, 8-9 ans. Et puis après, elle a été engagée au Centre de l'Est à Colmar. À l'époque, c'était à Colmar. Je l'ai suivie. Et là-bas, je suis rentré au cours du théâtre, dont elle était professeure d'ailleurs. Et très vite, on m'a donné des rôles d'adolescent. J'ai joué des petits rôles. Ma première réplique importante, c'était « Ils sortent du bois, ils arrivent ». J'avais le trac pour dire ça, c'était terrible.
Alors, est-ce que c'est vrai que dans votre adolescence, vous aviez une autre passion qui était la politique?
Dans mon adolescence?
Oui, parce qu'on m'a dit que vous étiez un communiste pur et dur quand vous étiez adolescent. C'est vrai ou c'est faux, ça?
C'est pas tout à fait ça. Vous avez raconté l'histoire, c'est pas tout à fait. En fait, ma mère travaillait beaucoup, était souvent absente, et donc j'allais souvent chez des parents à Paris qui étaient mon oncle et ma tante. Lui était peintre et elle était un peu comédienne, un peu parce qu'elle travaillait pas beaucoup. Et ils me recevaient et ils avaient comme autre particularité tous les deux d'être de fervents, d'ardents militants communistes. Ils vendaient l'UMA tous les dimanches et tout ça. Ils étaient très prosélytes, n'est-ce pas? Il fallait absolument être de leur avis, sinon on ne s'entendait pas du tout avec eux. Alors moi j'étais pris dans ce courant-là. Il y avait mes cousins aussi qui étaient là. On était là-dedans. Ils s'appelaient les Vaillants.
Ah oui,
les
jeunesses.
J'étais aux Vaillants. Et je me souviens que une année, j'avais été au catéchisme catholique et l'année suivante au Vaillant. Donc, j'avais croisé mon abbé de l'année précédente. J'avais dit, ah bonjour, monsieur l'abbé. J'étais passé en quelque sorte de l'autre côté.
Signe d'un certain éclectisme.
Mais cela dit, puisqu'on peut continuer un peu là-dessus, je n'ai jamais, je m'en défends pas, il n'y a pas à s'en défendre, mais je n'ai jamais adhéré vraiment à cette croyance politique. J'étais très critique, même à 13-14 ans, je lisais des livres qui me paraissaient bizarres. Je lisais l'UMA, évidemment, tous les jours. Ça me paraissait étrange, j'étais pas très convaincu.
Alors, vous êtes passé par la rue Blanche, comme on dit, vous avez fait le conservatoire, donc une formation aussi solide que classique. Conservatoire, vous y êtes à 18 ans, ce qui est quand même bien. De cette génération-là, vous avez gardé beaucoup d'amis, les gens qui étaient avec vous à ce moment-là?
Surtout Catherine Samy. Catherine Samy, avec qui j'ai concouru le concours du conservatoire la même année, elle a eu un premier prix et moi aussi, je ne sais plus très précisément. Mais enfin,
le vôtre, c'était, je vais vous le rappeler, c'était pour votre rôle dans Le Tragique malgré lui de Tchekhov.
De Tchekhov. Et donc, ça a été une très grande amie. C'est resté le nom de nos années au français, ma meilleure amie. Femme, le meilleur ami homme étant Jean-Paul Roussillon.
Qui a marqué profondément votre carrière. Vous considérez que passer par le conservatoire reste aujourd'hui le meilleur passeport pour faire une carrière de comédien ou pas ?
Je ne sais pas s'il faut trop dire ça. Je connais beaucoup moins le conservatoire. Évidemment, j'y vivais moins. Quoique je pourrais, je reçois des invitations, je pourrais aller voir des exercices, mais enfin bon, ça ne me tente pas vraiment. J'entends dire pas mal de choses. Il y a du pour et du contre. Je crois que ça a pas mal évolué. Un peu comme la comédie française elle-même, d'ailleurs. Je manque peut-être un peu de curiosité. Je ne sais plus très bien comment ça fonctionne. Je ne sais plus très bien.
Vous parlez de la comédie française. C'est tout à fait naturellement que vous êtes passé quasi immédiatement du conservatoire à la comédie française en 1956.
C'est ce qu'on m'a engagé, tout bêtement. Oui. À cette époque-là, en 1956, j'étais surtout très admiratif de Jean Villard et du TNP. Et à vrai dire, j'aurais préféré être engagé par Villard.
Quoi ? Parce que c'était l'image de la comédie française qui vous faisait peur, l'idée de jouer...
Non, ça ne me faisait pas peur, mais j'étais surtout admiratif de Villard, de la troupe de Villard.
Voilà. C'est vrai qu'il y avait un élan, il y avait un...
C'était vraiment, pour moi, ça reste un souvenir vraiment merveilleux. Alors qu'au français, je voyais des choses très bien aussi, il y avait des grands acteurs, mais j'étais moins emballé à l'idée d'entrer au français, mais c'est le français qui m'a engagé. Alors je me dis, ah, oui, d'accord, merci.
Oui, mais patatras, vous êtes engagé en 56 et en 57, c'est l'armée qui vous demande, et à cette époque-là, on ne plaisantait pas, parce qu'il y avait la guerre d'Algérie, et c'était le service à 27 mois. Comment ça s'est passé ? L'armée a utilisé vos dons de comédien, ou vous envoyez au charbon, enfin, si j'ose dire ?
Alors, dans un premier temps, je suis resté un an et demi environ à Paris, au fort de Vincennes, et là, je soulevais des caisses. Avec mon copain, à qui j'étais tout le temps, était ingénieur, il a fait des grosses études, on était deux. On était bien faits tous les deux pour ce boulot, et on est resté là longtemps, on s'embêtait beaucoup, 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 mais l'avantage, c'est qu'on pouvait assez facilement, le soir, après la journée de ce dur labeur, on pouvait éventuellement, en trichant un peu, rentrer chez nous, en étant copains avec les services de garde. On arrivait à sortir et à revenir tôt le lendemain matin sans être repéré. Voilà. Et puis alors, après, j'ai été donc envoyé en Algérie, comme tout le monde à l'époque. Et là, je suis tombé très rapidement par l'entremise d'un camarade comédien aussi qui avait occupé le poste avant, sur un capitaine amateur de théâtre et auteur dramatique lui-même.
Dramatique auteur,
dont il fallait absolument, impérativement jouer les œuvres, et qui était tout à fait lamentable et absolument d'une médiocrité confondante. Mais il fallait bien passer par là, donc on jouait ces textes devant des salles médusées. Mais lui était ravi. Et après, c'était un homme charmant d'ailleurs, il était très gentil. Il est devenu après directeur du théâtre de Tours.
Le militaire.
Ah, il n'était plus militaire.
Il n'était plus. Alors, nous allons évoquer évidemment les principaux jalons de votre carrière, mais simplement ce rappel, 130 pièces en 37 ans. Et vous arrivez au cinéma en 1972, c'est-à-dire 16 ans après être entré à la Comédie française. Alors, est-ce à dire qu'à cette époque-là, faire du cinéma était mal vu à la Comédie française ? C'est Michel Deville qui vous a utilisé la première fois en 72, La Femme en Bleu. Chabrol, après l'année suivante, 73, un rôle très trouble. Hein.
Vous êtes dans Nada.
Oui, un commissaire un peu sadique.
Une ordure,
voilà,
oui,
franchement.
Oui, c'était mon emploi à l'époque.
C'était mal vu à la Comédie française à l'époque de faire du cinéma ou quoi ?
C'est devenu beaucoup plus libre maintenant. À l'époque, les administrateurs successifs étaient plus réticents pour accorder des congés, hein, pour aller tourner. En principe, c'était pas bien considéré. C'était un peu se commettre qu'aller faire du cinéma. Ça remonte à assez loin. Ça. Chez Dulin, c'était pareil. Ma mère me racontait que Dulin détestait. Il en a fait un peu de cinéma, mais il était contre aussi le principe. Il fallait pas aller faire du cinéma. Et aux Français, il y avait un peu cet état d'esprit-là qui a tout à fait complètement disparu maintenant. Tant mieux pour eux. Hein.
Alors, vous êtes resté 37 ans aux Français. Vu de l'extérieur, vous allez peut-être sourire, mais on a l'impression que vivre à la Comédie française, c'est une forme d'ascèse. C'est vrai ou c'est faux, ça ?
D'ascèse, c'est un peu sévère comme mot, mais on est très, très pris, quoi. On travaille beaucoup, on travaille énormément, on est toujours sur plusieurs pièces en même temps, on répète, on joue le soir, on travaille beaucoup, beaucoup, on est très bloqué, là. Bon, certains ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas la chance d'être pris dans les spectacles, alors ils ne sont pas contents. Mais quand on est apprécié suffisamment, on travaille énormément.
Comment se fait le choix, justement ? Comment sont attribués les rôles ?
Eh bien, en principe, c'est le metteur en scène.
C'est le metteur en scène.
C'est l'administrateur et le metteur en scène qui choisissent un peu leur distribution, en prenant les gants toutefois de demander aux acteurs envisagés s'ils sont d'accord. On n'est pas tenu d'accepter.
Corvéable à merci. Quoi.
Voilà, on vous dit est-ce que tu veux bien jouer Alceste ce mois-ci ? Ah non, je préférerais Othello. Ah bon, d'accord.
Et on s'habitue vite au principe de l'alternance, parce qu'en tant que spectateur, on se dit quand même qu'ils sont doués.
C'est une gymnastique importante. Moi, je me souviens avoir joué, par exemple, Richard III en matinée et Lavare en soirée, par exemple. Ça fait une bonne journée. Hein.
Oula.
Oui, on a la voix un peu fatiguée le soir.
Vu de l'extérieur aussi, vous allez me dire que je parle comme dans un journal People, mais on se pose des questions sur cette famille, entre guillemets, de la Comédie française. Quand vous y étiez, c'était quoi? Vous vous sentiez entre amis, frères, sœurs, ou c'était déjà les Atrides, comme ce fut le cas à certaines générations?
Il y a des deux. C'est toujours pareil. Dans une troupe aussi importante, où il y a tellement d'individualités différentes, ça se passe par affinité, un peu des clans. Le mot est désagréable, mais enfin, c'est un peu ça. On est plus d'un côté que de l'autre. On aime mieux le moderne que le classique. On aime mieux les metteurs en scène innovants que les metteurs en scène traditionnalistes. Et on se range un peu par famille, comme ça. Et parfois, ça se gâte un peu et on en arrive à se mépriser et à se haïr les uns des autres, ce qui est très sot, mais un peu inévitable dans toute société humaine, si j'ai bien compris.
Ça donne des départs comme celui malheureux de Catherine Yégel à la fin de l'année dernière, mais on ne va pas insister là-dessus, c'est considérant.
Dommage, c'est dommage pour la troupe, oui, c'est vraiment une comédienne de grande qualité.
D'autant que c'était un moment où elle venait de faire une mise en scène remarquable.
Absolument.
De Lava. Alors, vous quittez donc la Comédie française en 93, après 37 ans de très très loyaux services, mais ça s'est passé, on a l'impression que vous êtes parti à petits pas de la Comédie française.
Oui,
c'est vous qui aviez la formule, j'ai été attiré par la colline, c'est ça?
C'est exactement ça.
La colline inspirée, c'est presque du Barrès, quoi.
Toujours d'ailleurs, étant sociétaire du français, on pouvait jouer sur d'autres scènes nationales, subventionnées, et Georges Lavelli, directeur de la colline, m'a fait jouer plusieurs spectacles qu'il mettait en scène à la colline. Et petit à petit, voilà, c'est vrai qui m'a influencé, je me suis un peu laissé happer, n'est-ce pas, par cette autre troupe. Et j'ai surpris un peu tout le monde à la Comédie française, notamment le nouvel administrateur. L'année où je suis parti, c'est Jean-Pierre Miquel qui a été nommé. Et je me souviens qu'il n'était pas au courant du tout, alors que moi j'avais déjà décidé de partir. Et il me convoque, il me dit, tiens, Michel, je voudrais te parler de la saison prochaine, nous allons déjeuner ensemble si tu veux bien. Et on a déjeuné tous les deux, et à peu près vers le fromage, je lui ai annoncé que je partais. Il est tombé des nues.
Vous lui avez gâché la poire.
Complètement.
Mais est-ce que Lavelli n'est pas le metteur en scène qui vous a, avec Roussillon, le plus marqué?
J'ai beaucoup aimé, j'aime toujours. Lavelli, on s'entendait très bien. C'était pourtant très différent de Jean-Paul Roussillon. Jean-Paul était très directif, indiquait, montrait beaucoup, jouait comédien lui-même, jouait beaucoup. Alors que Lavelli, c'est pas ça du tout. Lavelli, il parle pas beaucoup, mais moi je comprenais admirablement. On se comprenait sans mots, quasiment.
Mais alors pas de chance, vous quittez, peut-on dire, la Comédie française presque pour lui. Et lui, il va quitter la colline très peu de temps après, non?
Ah oui, mais pas volontairement. Il était mis à la retraite, tout simplement.
Mais ça, il devait le savoir, donc ça.
Oui, absolument. Il devait être au courant, oui. C'était un règlement qui appliqué à tout le monde. Oui.
Il avait oublié de vous le dire. Alors, vous quittez le français, mais vous n'abandonnez pas votre exigence, car quand on regarde les auteurs que vous avez servis, c'est vraiment le cas de le dire, vous avez vraiment donné un coup de pouce régulier à des auteurs modernes. Je citerai quelques-uns, hein, Ionesco, Beckett, Arabal, Grimbert, Anouilh, Biédou, Reza, etc., etc. Est-ce que vous pensez que le théâtre de ces 60 dernières années est un bon reflet, un très bon reflet de la condition humaine et de l'évolution de notre société, que c'est vraiment un théâtre très riche?
C'est ce qu'il me semble. Dès lors qu'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit de qualité, elle représente son époque, bien entendu. Shakespeare à son époque, Molière à la sienne, Marivaux à la sienne, etc., etc. Et ces grands auteurs modernes-là aussi, ça a ouvert le champ pas mal. Beckett, moi je me souviens de la première fois que j'avais vu En attendant Godot, c'était vraiment un truc très, très, très nouveau. On était épatés et on se disait, mince, mais comme tout ça est vrai, comme il nous décrit admirablement, au fond, de façon très mystérieuse, puisqu'en fait, il se passe pas grand-chose. Ça allait contre toutes les lois de l'écriture dramatique.
Comme chez Pinter, quoi.
Oh oui, ou peut-être plus, même
plus,
encore.
Plus, oui.
C'était vraiment très, très surprenant. Ouais.
Du minimalisme.
Il va très loin, Beckett. Il va très profond, hein. Alors, on dit c'est très pessimiste, c'est très noir. Je suis pas tellement d'accord, moi. Il n'y a plus l'au-delà, il n'y a plus Dieu, Godot ne viendra jamais. Mais en même temps, il y a une telle humanité foncière, c'est beau, je trouve.
Et le fait d'avoir quitté la Comédie française et de jouer ailleurs, est-ce que ça change pour un comédien? Est-ce que vous vous êtes senti plus libre, comme on dit parfois? Ou est-ce que finalement tout ça dépend du metteur en scène, dépend de l'équipe avec laquelle vous jouez, qu'il n'y a pas grande différence, quoi?
Entre le français...
Oui, ce que vous avez fait après, pour vous, comédien...
C'est-à-dire que l'état d'esprit n'est pas tout à fait le même, bien entendu. Au français, d'abord, il y a le règlement intérieur de la maison qui fait que, par exemple, les assemblées générales, les comités avec les jugements en fin d'année, tout ça, voilà, ça crée une ambiance un peu particulière. régulière, bien entendu, qu'on ne retrouve pas à l'extérieur. Mais sinon, dans le travail, c'est pareil, on fait le même métier, qu'on soit au Théâtre de l'Œuvre ou à la Comédie Française.
C'est toujours le Théâtre de l'Œuvre, on le fait très bien, ça c'est connu. Bon, tout à l'heure, vous disiez conservatoire, je ne sais pas très bien où ils en sont. La Comédie Française, vous savez où ils en sont. Pour vous, ça représente aujourd'hui, dans l'univers théâtral français, la Comédie Française, en termes d'innovation, en termes de qualité, ça vous paraît rester un noyau essentiel ou est-ce que bon, c'est une institution qui vit sur son histoire ?
Alors ça a beaucoup, à mon avis, hein, mon analyse n'est peut-être pas d'une pertinence extrême, mais enfin, ça a quand même...
C'est votre avis qui nous intéresse.
Ça a beaucoup changé. À l'époque, c'était considéré comme un musée, hein, c'est un peu le musée de la tradition, voilà, bon. Ça a énormément évolué, on est plus proche maintenant d'une troupe comme celle de Nanterre que... Alors voilà, on aime ou on n'aime pas. Des fois, ça tombe dans l'excès du côté de l'avant-garde. On aimerait des mises en scène un petit peu plus simples, disons. On n'a pas toujours besoin d'une démonstration de mise en scène étourdissante pour faire entendre un texte classique. Non, ça peut être assez simple, finalement.
Dans cet état d'esprit, je pense à un Shakespeare l'année dernière, par exemple.
Ah oui. Bon. Mais à côté de ça, contradictoirement, je me souviens que, notamment avec Jean-Paul Roussillon, on trouvait que les mises en scène, les spectacles en général, étaient trop plan-plan, trop routiniers, trop sans invention, sans imagination, sans recherche. Donc on a été un peu dans ce sens-là, dans le sens d'avancer dans le moderne, mais enfin on était relativement raisonnable encore.
Alors je disais donc en commençant, d'ailleurs je n'ai pas trouvé d'équivalent de comédien ayant eu 4 Molières.
Ah si, je croyais. Si, oui, il me semble, en cherchant bien.
Personnellement, je n'ai
pas trouvé.
Il
n'en a pas eu 4, Robert Hirsch ?
Non, je ne crois pas.
Ah bon ?
Donc 93, Molière du meilleur comédien pour Macbeth de UNESCO.
Oui.
99, meilleur comédien dans un second rôle, c'est la pièce de Grimbert, Rêver peut-être. 2000, meilleur comédien, la pièce de Guitry, un sujet de roman. Et puis alors, cette chose également admirable, peu connue mais admirable, l'adaptation au théâtre donc, du roman de Vincent Delors. Croix à la porte. Donc Molière, 2007, du seul en scène. De ces quatre-là, est-ce qu'il y a l'un de ces spectacles qui a été, en tant qu'expérience personnelle, plus forte que les autres ?
À la porte de Vincent Delcroix était un texte vraiment superbe, de très haute volée, de très haut niveau.
On peut rappeler ce que c'est l'histoire d'un professeur de philosophie paumé dans Paris, hein, sans doute, c'est ça ?
Voilà, il imagine, il rêvasse à la vie en général, il pense à ses enfants, son fils est mort, enfin bref. C'est admirablement écrit et bouleversant. C'est drôle et vraiment bouleversant. Moi, ça restera un de mes plus grands personnages de théâtre, avec un autre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait, entre autres, hein, il y en a d'autres aussi, mais Décadence, de Steven Berkoff, qu'on a joué à la Colline avec Christian Coendi. Et ça, c'était quelque chose, alors.
Alors, pour la grande majorité des spectateurs de théâtre, dont je fais partie, le rôle dans lequel vous nous avez probablement le plus frappé, c'est quand même celui d'Harpagon, dans la mise en scène de votre grand ami Roussillon. C'était en 69, la création. Ça fait du bruit, là. Ça a bousculé pas mal de choses, ça.
Oui, absolument.
Pourquoi les gens étaient à ce point ?
Ben, parce qu'il y a toute une partie de la critique qui était très traditionnaliste et qui trouvait que le français devait toujours montrer les classiques un petit peu toujours de la même façon, il fallait pas du tout déborder. Et Roussillon faisait un vrai travail de recherche, mais surtout en fait sur le jeu intérieur des acteurs, plus que dans des recherches d'effets. C'était finalement assez simple, quoi. Mais c'est vrai qu'il avait donné à l'avare une ambiance, disons, balzacienne. Ça devenait un personnage assez sombre, assez douloureux même. Et moi, j'étais bien d'accord avec ça, parce que je me disais qu'un type qui est affligé d'un vice comme ça, au fond, se rend bien compte qu'il fait du mal tout autour de lui. C'est un solitaire. C'est un grand solitaire, sûrement, comme beaucoup de personnages de Molière, finalement. Arnold, voilà, c'est un...
Ce sont souvent des tragédies déguisées en comédie. Hein,
je trouve, un petit peu. Alors, ça n'empêche pas de rire, d'ailleurs, les gens riaient aussi, mais le ton général était assez douloureux. Moi, je prenais le personnage de façon un peu dramatique. Voilà, il est amoureux de cette petite jeune femme, naturellement, ça marche pas. Il met des lunettes pour lui plaire, mais il est encore plus ridicule. Son fils le déteste. Mais voilà, rien ne marche, hein. Il est paumé, quoi. Pour moi, c'est ça. Il souffre. On lui vole sa cassette. Enfin, rien ne marche. C'est terrible.
Alors, vous avez interprété ce rôle pendant plus de 20 ans.
Oui, 20 ans à peu près, oui.
Alors, sur 20 ans, évidemment, on fait évoluer le personnage, non ? Est-ce que vous avez été conscient d'une évolution ou est-ce que, bon...
On n'a pas cherché à modifier la couleur première qu'on avait donnée, que Jean-Paul Roussillon avait donnée. Mais il y a une évolution toute naturelle qui se fait comme dans tous les rôles qu'on joue. On a toujours un petit peu changé à la 30e par rapport à la première.
Ouais, ouais.
Alors, à plus forte raison,
après.
Voilà, en jouant seulement tous les 2-3 ans, bien entendu. On mûrit, on est soi-même un peu un autre. Alors voilà...
Alors, il y a eu deux versions récentes de l'Avare, celle avec Bouquet et celle en cours de Bonalides.
Oui.
Quand vous regardez ce qu'ils ont fait et ce que vous avez fait, en quoi vous avez apporté quelque chose de différent? Je ne dis pas de mieux ou moins bien. Hein. En quoi votre personnage à vous est différent des leurs?
Michel Bouquet, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai cru comprendre, d'après les critiques que j'ai pu lire, qu'il le jouait assez... C'est un acteur que j'admire infiniment. Mais j'ai cru comprendre qu'il le jouait de façon assez bouffonne. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne l'ai pas vu.
C'est vrai, mais tragique quand même.
Tragique quand même. Alors donc, j'allais dire des bêtises. Non, j'en reviendrai à ce que je disais précédemment. En ce qui concerne Podalydès, acteur que j'admire également, énormément, parce que je crois que ça va être sûrement un grand, c'est déjà un grand, mais voilà, je trouve que le parti pris par Catherine Yeagel, c'était un très beau spectacle, est étrange, quoi. Bien sûr, ça fait un pantalon de la Commedia dell'arte. C'est tout à fait un personnage de la Commedia dell'arte, comme c'est joué là, dansant, très léger.
Bah, c'est un côté Louis de Funès, un peu tragique.
Voilà, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Mais enfin, c'est quand même un peu surprenant, un peu trop, un petit peu trop surprenant. Mais enfin, c'est un très beau spectacle. C'est un beau spectacle.
Alors, vous qui avez donc joué Molière des milliers de soirées, est-ce que comme Jean-Laurent Cochet, vous pensez, Jean-Laurent Cochet nous le disait ici il y a quelques mois, qu'en réalité, les pièces de Molière sont des pièces de Corneille?
Il le disait sérieusement?
Ah oui, sérieusement, avec argument à l'appui. Hein. Tenez, regardez, Corneille a commencé par des comédies. Deuxièmement, quand Corneille ne marche plus bien parce que Racine arrive, c'est justement le début de Molière. Et puis, troisièmement, ce qu'on venait de dire à l'instant, la plupart des grands personnages de Molière, finalement, sont des personnages éminemment tragiques, des obsessions dont il ne se débarrasse jamais. Mais non, c'est une idée qui vous est étrangère, ça, celle-là.
Bon, j'ai lu des choses dessus, mais je ne suis pas assez cultivé, personnellement, pour avoir suivi ce débat de très près. Ce qui m'intéresse beaucoup, je ne suis pas très sûr, non. Mais enfin, bon, on n'a pas la preuve de ça.
Non, personne ne l'a.
Personne ne sait, on ne l'aura jamais. Mais Shakespeare n'a pas existé non plus, n'a jamais existé.
Alors, à propos de Shakespeare, donc l'un des autres rôles de vous qui ont marqué, c'est Richard III, dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Est-ce que c'est plus fort comme sensation de jouer dans la cour des papes un personnage comme ça que de le jouer Salle Richelieu, Comédie Française?
Bien
il y a les
sûr.
Fantômes là, il y avait les Boursentiers, les fantômes de Villard.
Complètement, puisque moi j'y étais.
Et votre mère aussi, non?
Ma mère y avait été en 49, elle avait joué dans le Cid. Moi j'étais mouflet, hein, je me baladais dans le château, là je voyais les répétitions. Je déjeunais entre Villard et Maria Cazares au restaurant à midi. C'était un peu ma famille et je les voyais, j'admirais, j'étais émerveillé par la plupart des spectacles que je voyais, par tous ces acteurs magnifiques. Et voilà, pour moi, c'était ça, le théâtre. Alors, le jour où je me suis retrouvé bombardé dans Richard III, ça s'est fait très vite. J'ai répété très peu. J'ai répété 3 semaines. Incroyable, incroyable. Parce que Robert Hirsch n'a pas voulu aller à Avignon. Et donc, Terry Hunt, ce metteur en scène, m'a désigné pour reprendre le rôle. Ça s'est fait très, très vite. Et je me suis retrouvé dans ce lieu qui, pour moi, était mythique, enfin, un endroit d'émerveillement total, à porter le poids énorme de ce rôle. Oh, j'ai bien eu peur. Alors là, pour avoir le trac, ça, je l'ai eu ce jour-là.
Et vous avez rendu leur tribut à vos parents, en ce moment-là.
Oui, absolument, oui.
Alors venons-en donc à cette pièce admirable de Lionel Goldstein, David et Edward. Donc je le rappelle, l'histoire de deux hommes qui se découvrent sur la tombe d'une femme. L'un était son mari, et c'est vous qui incarnez ce personnage. L'autre a été son amant avant qu'elle connaisse votre personnage. Puis il est resté pendant des décennies son ami de cœur, et qu'elle voyait 3 fois par an. Alors, ce qu'il y a d'étonnant dans cette pièce, c'est qu'on a là deux hommes qui ont une image complètement différente de la même femme, et tous les deux ont raison. C'est terrible sur l'amour, ça. Les deux ont raison, non?
Ah oui, les deux ont raison, oui.
Et l'image est complètement différente.
C'est un peu vrai, en général, pour tout le monde. On est comme on vous voit. Les gens qui vous prennent pour un crétin, vous êtes un crétin. Vous devenez facilement un crétin. Si la personne en face vous prend pour un crétin, vous devenez un peu crétin. De même que si on vous croit très intelligent, ça rend intelligent. Donc ce mari, avec sa femme, là, lui disait « va faire la soupe et nous emmerde pas », probablement. Alors que l'autre, plein de déférence, et lui baisait la main, et lui disait « ma chérie, parlons un peu
d'opéra et de politique.
De Nietzsche et de... » voilà. Et alors, elle était ravie, elle devenait très brillante et cultivée avec lui. Mais son mari, lui, il s'en foutait, puisqu'il s'intéressait probablement qu'au rugby.
Il y a plein de choses très sombres, quand même, sur le couple. On a vraiment l'impression, là, c'est comme dans les chansons de Brassens, mais beaucoup plus tragique, c'est que l'amour ne peut pas s'accommoder du partage intime d'une vie ordinaire. Quand vous racontez les petits matins, quand elle reste au lit, elle fait rien, elle n'est pas maquillée, elle n'est pas habillée et tout.
Oui.
C'est terrible, ça.
La cohabitation, c'est dur dans le mariage. Des fois, ça se passe bien, hein, plus ou moins bien, mais des fois, c'est un peu dur, c'est vrai. Quand on rentre vraiment dans l'intimité de l'autre, la première image idéalisante quand on est amoureux s'efface assez rapidement quand on partage le même cabinet de toilette.
C'est une image assez triste. Hein. Mais ce qu'il y a peut-être de plus triste et qui est évoqué avec beaucoup, beaucoup de finesse, c'est comment l'amour peut difficilement être très, très fort en étant exclusif entre deux êtres. Parce que Edward vous dit à un moment donné une chose superbe, il vous dit « J'ai contribué à votre bonheur, lui l'amant. » Et en fait, il n'a pas tort, parce que s'il n'avait pas été là, elle ne vous aurait pas supporté, Flo.
Ah oui, mais en même temps, elle est tenue, elle s'est mariée avec moi, donc, avec mon personnage, pour des affaires de religion. C'est les familles qui ont décidé.
De famille juive, oui.
Peut-être qu'elle préférait des jeunes filles, elle aurait peut-être préféré rester avec
Johnson. On avait cru comprendre, oui.
Et c'est l'autre, elle a été obligée de se marier avec ce monsieur qu'elle a dû aussi estimer, aimer, de façon moins idéalisée, oui.
Oui, mais c'est la présence de l'autre qui lui permet de supporter.
Ah oui, oui, oui.
C'est quand même tout à fait étonnant. Quoi.
Absolument, oui.
Alors, c'est une pièce de la complexité parce que vous vous incarnez un homme rude et dur. Au début, on se dit il a été ferrailleur, après il fabrique des cartonnages. Et puis, il est amené à avouer que lui aussi a connu un grand amour et qu'il en a énormément souffert. Il a souffert d'être abandonné. Mais au fond, s'il a été abandonné, c'est parce qu'il ne se résolvait pas à quitter sa femme.
Oh, oui, absolument.
S'il avait voulu partir.
Tout à fait, c'est ça, oui.
C'est-à-dire que l'autre l'aimait vraiment, cette femme.
L'autre, apparemment, l'aimait vraiment. C'est ce qui se dit, oui. C'est pas le même type d'amour que mon rival a eu avec ma femme. C'était un amour de délicatesse, d'échange, de pensée.
Ça, c'est votre rival.
Comme nous nous comprenons.
Rival, tandis que vous, c'était la culbute.
À ma future femme.
La culbute dans
voilà,
le dépôt.
Tandis que moi, ça se passait au lit. Quoi. Leur attachement, de toute évidence, se passait au lit.
Alors, il y a une chose qu'on veut comprendre comme spectateur. Alors, vous allez nous donner l'explication, parce qu'elle doit être très délicate. Pourquoi Florence, votre femme, a-t-elle demandé à son ex-amant et ami de cœur de vous rencontrer après sa mort, alors que vous ne savez rien de lui? Qu'est-ce qu'elle avait derrière la tête?
Alors ça a été une question qu'on s'est beaucoup posée. C'est difficile d'y répondre, ça reste assez mystérieux finalement. Voilà, elle a dû souhaiter que les deux hommes de sa vie, en quelque sorte, se connaissent et finissent peut-être par s'apprécier et se comprendre l'un l'autre. Voilà.
Deviennent des amis, quoi.
Ou deviennent des amis, ce qui va finalement se passer.
Ce qui va se passer.
Voilà. C'est assez joli. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est ce que dit lui, Johnson, qui dit, parce que je lui demande, mais pourquoi vous êtes venu m'enquiquiner à me parler de ça? Et lui, parce que je voulais que vous sachiez que j'existais. Là, c'est assez beau. Hein,
c'est un texte à la fois très dur et très beau. Alors, est-ce que vous partagez cette vision assez mystérieuse des relations entre les êtres, qui est incarnée par la dernière phrase de la pièce, que c'est vous qui l'a prononcée, et vous vous adressez à Michel Duchaussois, et vous lui dites, mon cher Edward, ne pensez-vous pas que le secret d'une relation qui dure, c'est une pointe de torture? Vous partagez cette opinion-là, dans la vie?
Oui, tout à fait.
Oh, la pointe de torture.
Oh, oui. La pointe de torture. Bon, le mot torture est fort, mais enfin, voilà, je vais dire des banalités.
Oui, non,
mais,
non, mais...
Toute relation a son côté positif et son côté négatif, quoi. On se fait toujours souffrir. D'ailleurs, tout le monde se fait tout le temps souffrir. Même quand on s'aime, on se fait souffrir. On
est. Oui, mais enfin, là, quand même.
J'ai une vue un peu pessimiste.
Là,
enfin, oui,
va...
Non, mais c'est vrai, quand même.
On va un peu loin, quand même. Hein. Alors, est-ce que, au fond, si ces deux hommes vont découvrir une amitié profonde, n'est-ce pas parce qu'ils se rendent compte, finalement, qu'ils ont été tous les deux dupes, mais vraiment dupes de la même femme, parce qu'elle les a dupés, tous les deux.
Ah oui, elle les a dupés, mais pas par duplicité ou sournoiserie. Elle les a dupés, les circonstances ont fait qu'elle les a dupés. Elle aurait pu aller avec Johnson, ça s'est pas fait pour des raisons de famille et de religion. Après, elle a été avec l'autre. Oui, elle lui a quand même caché qu'elle le rencontrait. Elle a
quand même caché
qu'elle le rencontrait, c'est vrai.
Vous avez beaucoup de mal à le supporter.
Oui, c'était quand même un peu étrange qu'elle lui ait pas dit « je revois de temps en temps ». Ce secret est un peu curieux, oui.
Alors, je suppose que vous êtes d'autant plus heureux du très très grand succès de cette pièce que c'est vous qui êtes à l'origine de son montage en France.
Oui, donc j'ai reçu un jour la pièce qui m'était envoyée par l'agent de l'auteur et voilà, ça m'a tout de suite intéressé, accroché. Alors, j'ai commencé à la faire circuler jusqu'à ce que ça arrive à Marcel Bluval et à Gérard Marot, le directeur du Théâtre de l'Œuvre. Voilà. Et on est bien content que ça se termine comme ça, cette affaire.
Oui, mais enfin, ça n'est qu'un nouveau début parce que c'est une pièce qui a une longue histoire, on ne va pas rentrer là-dedans, mais une histoire tortueuse. Moi, je voudrais que vous nous parliez parliez maintenant de votre jeu d'acteur. Alors, Jouvet, quand on lui posait très sérieusement et très doctement la question « Maître, comment rentrez-vous dans la peau d'un personnage ?» Vous vous souvenez de la réponse de Jouvet, il disait « C'est une connerie, je rentre jamais dans la peau d'un personnage. » Alors, vous, comment vous abordez un personnage, un texte, un auteur? Comment fait-on? Parce qu'un personnage comme celui-là, par exemple, pour exprimer cette violence extrême de David, cette violence intérieure extrême, mais maîtrisée dans la forme, comment fait-on?
C'est très...
dire que c'est le métier de comédien, mais oui, si vous pouviez nous faire comprendre un peu de l'intérieur, comment ça se passe?
C'est très difficile à cerner et à expliquer. Moi, je ne sais pas très bien expliquer comment ça se passe. C'est de l'alchimie un peu étrange. Le principe dans la pratique est toujours le même. Il y a un texte, on essaie de le comprendre, on le lit plusieurs fois, on essaie de comprendre évidemment la pièce et les personnages. Petit à petit, on apprend le texte et on en découvre les circonvolutions, ce qui est dit, ce qui est montré, ce qui est visible, ce qui ne l'est pas. Et puis on cherche les concordances sensibles qu'il peut y avoir entre le personnage que l'on va jouer et soi-même. Ça, c'est très important. Il faut évidemment être soit amusé, soit touché, soit plus que ça, bouleversé. Il faut qu'on soit à l'intérieur de soi, vraiment saisi par le personnage, bien sûr. Sinon, on ne ferait rien passer.
Oui, mais parfois, on a l'impression que, justement, dans tout ce travail que vous faites pour réaliser ce personnage, vous trouvez en vous des choses dont vous ne saviez pas que vous les aviez en vous.
Enfin, c'est... Ah, ça arrive tout à fait, oui, bien sûr.
C'est étonnant, ça doit être.
Certains, quand on joue Richard, III, et qu'on arrive et qu'on dit « je vais tuer tout le monde » dans ce formidable premier monologue du personnage, on n'a pas éprouvé ça soi-même dans la réalité. Donc il faut trouver des équivalences. C'est des équivalences sensibles qu'on peut trouver en soi, parce que même si on n'a tué personne, on peut avoir eu envie, par exemple.
C'est une forme d'analyse d'être acteur à ce niveau-là.
Oui.
C'est de la psychanalyse.
Je ne suis pas sûr, parce que ça n'arrive pas à la conscience de façon qu'on puisse s'en servir pratiquement, en principe. Je n'ai jamais fait d'analyse, mais quand on sort d'une analyse, on est modifié plus ou moins par le travail qui a été fourni. Là, quand on a joué Harpagon, Alceste, Arnolphe, Beckett ou Le Roi se meurt, une fois que la séance est terminée, on se retrouve au café, on est le même qu'avant.
Ah oui.
Alors il y a une évolution.
La théorie de l'éponge, là. Vous savez, la théorie de l'acteur, une éponge qui garde l'essentiel et qui rejette une partie, non? Non, c'est pas ça.
Alors là, ça dépend peut-être aussi des individus. Moi, je parle pour moi.
Mais vous, vous êtes capable, cop, c'est fini, Richard III, c'est terminé,
la pièce.
Et après vous...
Ah, complètement, oui. Mais non, on deviendrait fou sans s'en rendre compte. On deviendrait complètement cinglé si on s'imprégnait vraiment de...
Nous, finalement, nous sommes des idiots de la farce, alors, parce que pendant des heures, on porte votre personnage dans le cœur, on est là, en train de... on partage votre vie. David, on a souffert avec lui toute la nuit.
Ah bah
et vous, vous êtes déjà en train
c'est
de...
C'est le jeu, c'est la règle du jeu. C'est quand vous lisez un roman, vous devenez aussi un peu les personnages qu'on vous décrit ou vous rentrez dans leur vie, dans leur sensibilité, puis finalement, quand le livre est refermé, bon, c'est fini.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous, en tant qu'acteur, vous êtes un peu comme un grand médecin face à des cas très graves, c'est-à-dire que vous gardez une distance de garantie, quoi. Vous vous préservez quelque part.
On est obligé. Il y a le fameux paradoxe du comédien, de Diderot. Je ne crois pas. Il y a des individus, il y a des acteurs qui s'imprègnent plus ou moins profondément de leur personnage. Il y a sûrement des cas comme
ça. Il y a des prises de tête. Hein.
Voilà, il y a des prises de tête. Mais dans ensemble, je crois que c'est un travail technique, je dirais pas seulement matériel, mais enfin pratique. On cherche, on répète énormément, on tourne autour du truc, on prend des repères dans l'espace avec le partenaire. Voilà, c'est un travail d'artisan, quoi.
Oui, d'artisan. C'est ça. En fait, vous ne donnez pas dans le génie, vous donnez dans l'artisanat, quoi.
Moi, je ne donne pas trop dans le génie, non.
Non, pas trop. Est-ce qu'il y a des personnages qui, tenez, je vais employer le langage des cultureux, des personnages qui vous ont résisté, que vous avez eu beaucoup de mal, vraiment beaucoup, beaucoup de mal à...
Beaucoup. Pour moi, puisque je suis qu'un artisan et pas un génie, c'est toujours laborieux, hein. C'est toujours du boulot, quoi. Il faut chercher, il faut se bagarrer avec le rôle. On n'y arrive pas, on fait deux pas en arrière, un pas en avant. Voilà, c'est toujours un peu, pas douloureux, c'est peut-être trop, mais enfin, laborieux, difficile. C'est difficile, un travail difficile, il n'y a pas de doute. Hein.
C'est pas... Le miracle, c'est que nous ne le voyons pas, soit.
Alors, en principe, c'est mieux
c'est
si le spectateur
ça.
Ne le voit pas à l'arrivée. Oui, bien sûr.
Alors, je disais donc 130 pièces de théâtre. Au moins 80 rôles au cinéma, plus de 50 à la télévision. Alors, on ne va pas faire de l'arithmétique des plaisirs et des peines, mais est-ce que c'est vraiment très, très différent de jouer pour le cinéma, la télévision et le théâtre, où vous passez de l'un à l'autre sans vous dire « oh là là, ce sont des univers », non ?
Je ne pense pas trop aux résultats, à me dire « je suis au théâtre, là, et là, je suis au cinéma, je suis devant une caméra ». Ce qui est quand même différent, c'est le travail qu'on fournit, justement, parce qu'au théâtre, on prend beaucoup plus le temps de chercher, de tourner autour du rôle, de laisser venir, de voilà. Alors qu'au cinéma, il faut évidemment, en général, il y a quelques exceptions, mais il faut aller beaucoup plus vite. Hein. Des fois, vous avez le texte 8 jours avant, il faut apprendre une séquence. Le metteur en scène vous dit « parle un peu plus fort, parle un peu moins fort, et mets-toi un peu plus à droite ou plus à gauche, t'es pas dans tes places, et puis on se débrouille ».
Ouais, un peu plus prosaïque.
Je caricature un peu, mais enfin, il y a un peu de ça.
Un peu plus prosaïque.
Oui.
Alors, dans quelques semaines, nous allons vous voir donc, dans ce qui sera l'un de vos, peut-être le 90e rôle. C'est un film d'Anne Lenny. Vous aviez déjà travaillé avec elle. Hein?
Ah non. Non, elle a déjà fait un film qui a été un succès de fréquentation, je ne sais pas trop, mais un succès de critique et d'estime, qui s'appelait « Ce qui reste » avec Vincent Lindon et Emmanuel Devos, qui était un film très émouvant, très beau. Donc, quand cette Anne Lenny m'a appelé, je me suis dit « ah ben oui, elle a déjà fait un beau film, cette dame-là, on peut y aller. »
Alors celui-là a également un très joli titre, « Les invités de mon père », mais c'est un père dont la tête tourne. Enfin, c'est...
Alors voilà, il reçoit des clandestins, ce monsieur, et qui en principe n'est pas légal. Hein. Et il reçoit entre autres un jour une dame moldave, qui est une jeune femme superbe, une grande femme blonde, magnifique, de 30 ans, 35 ans. Et voilà, pas que notre septuagénaire va éprouver quelques émois, à tel point qu'il fait carrément des bêtises, puisqu'il va en arriver à vouloir déshériter son fils et sa fille. Enfin, voilà, il perd la tête, ce pauvre homme. Naturellement, ça ne donne rien. La dame n'est pas sensible à son charme d'homme expérimenté. Alors, il va évidemment se fâcher un peu. Mon personnage va se fâcher un peu avec ses enfants qui ne sont pas contents de la façon dont il les traite. Et voilà. Alors, c'est les rapports aussi. Les deux rôles principaux, ce n'est pas le père. Les deux rôles principaux sont les deux enfants joués par Fabrice Lucchini et Karine Viard.
C'est sombre, votre personnage.
Oui, enfin, oui, c'est mi-sombre, mi-comédie, oui. Il y a des sourires aussi.
Alors, ce qu'on attend avec beaucoup d'impatience, je ne suis pas le seul à avoir hâte de vous découvrir dans ce personnage-là, c'est le Rabelais de France 2. Alors, question idiote, mais comment on aborde un personnage comme ça ?
C'est pas idiot, c'est tout.
Vous le lisez, vous
C'est toujours pareil. Je ne connaissais pas Rabelais plus que le commun des mortels, c'est-à-dire depuis l'école, je voyais des images de Gargantua, et de, voilà, comme tout le monde. Sinon, je ne connaissais vraiment pas bien, sinon par quelques extraits comme ça dans des... Non, alors là, c'est le vieux Rabelais qui revoit sa vie. Alors, j'avais un texte très bien écrit. Le réalisateur qui s'appelle Hervé Ballet, qui a beaucoup de talent, a écrit les dialogues et a cherché à retrouver approximativement un langage qui ne soit pas tout à fait notre langage courant à nous, donc un langage un petit peu travaillé. Et donc ça m'a beaucoup plu parce que moi j'aime ça, je préfère toujours avoir une écriture à dire plutôt que de dire « passe-moi le sel » et voilà, ça m'intéresse moins. Alors là, j'avais un beau texte à dire avec des choses concernant tout le monde, parce que ce cher Rabelais, devant la mort, bah, il parle de l'approche de la mort, de la peur qu'il en a, de la vieillesse, de la maladie. Voilà, c'est des choses belles et vraies, vraies pour tout homme. Alors là, quand ça devient vrai pour tout homme, c'est pareil au théâtre. Hein. C'est pour ça qu'on est comédien. Quand on joue Alceste, quand on joue Harpagon, et qu'on, tout d'un coup, on représente quelque chose qui est vrai pour tout le monde, finalement.
Ce sont les petits cailloux de l'universel.
Bah, oui, ma
cassette. Poussé de l'universel.
Voilà. Même Harpagon, hein, ma cassette, on m'a volé. Ça, c'est beau. On peut tous éprouver ça. Hein. C'est fort, c'est des moments forts.
Est-ce qu'on peut dire, en vous écoutant, je me pose la question, mais que votre travail tel que vous l'exercez, c'est une forme de sacerdoce, au fond ?
Sacerdoce, ça me paraît un peu trop.
Un peu trop,
ça me paraît un petit peu trop, oui. Mais c'est préoccupant. Ça prend beaucoup de temps, on y pense beaucoup, on travaille beaucoup, et voilà, c'est vrai que, par exemple, tout bêtement, quand on joue le soir, tous les soirs au théâtre, voilà, la représentation du soir est le point d'arrivée de la journée.
Tout se dirige
vers ça. C'est très curieux, et plus ça approche dans le temps, plus on sent que, voilà, c'est
non, parce que je parlais de sacerdoce, parce que j'ai l'impression que vous, votre vie est quasi, pour l'essentiel, consacrée à quelque chose qui vous dépasse, quoi, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. Je suis fier d'avoir été, je dis déjà d'avoir été, c'est peut-être un peu prématuré, mais
oui.
D'avoir été comédien.
J'espère.
Et oui, je trouve que c'est un beau travail, un beau métier. Et je sais, quand ça marche, j'en suis fier et heureux, oui.
Des esprits mauvais, vous poserez la question de savoir si jouer autant, être constamment sur la brèche comme ça, est-ce que ce n'est pas le signe que, en fait, vous vous ennuyez avec vous-même quand vous ne jouez pas, non ? Vous vous supportez.
Ça, c'est
vous...
très indiscret.
Vous pouvez dire joker. Hein.
Non, il doit y avoir un peu de ça. Je ne vais pas trop chercher par là. Mais c'est vrai qu'on s'en rend surtout compte quand, par hasard, ça m'est rarement arrivé, je touche du bois, quand, par hasard, on n'a pas de travail pendant 3 mois ou 4 mois, on est en manque.
Ouais, c'est
on
ça.
Est un peu en manque, c'est
donc
vrai.
Donc, il y a toujours le même plaisir.
Ah oui, absolument, oui. Et la même peur et le même plaisir, oui.
Ça, je comprends, il faut être maso hein, pour vouloir s'arrêter. Quand je vois le public avec vous, donc j'y étais il n'y a pas longtemps, donc pour David et Edouard, il y a une véritable osmose avec le public, quoi. Il se lève à la fin pour vous remercier. Le public est là, et ça, évidemment, vous le sentez.
Mais tout à fait, quand le public est satisfait, on l'éprouve bien. Et c'est un honneur, enfin, ouais, c'est une jouissance même, on pourrait dire.
Donc, pas question de raccrocher d'une façon ou d'une autre, sauf contrainte, quoi.
Je ne raccrocherai que quand je ne pourrai plus marcher, ce qui va peut-être arriver, car j'ai de l'arthrose du genou.
Oui, mais enfin, ça ne se voit pas, quoi.
Il fallait
alors,
le dire.
Coïncidence qui a ému les journalistes en quête d'information, parce que j'ai remarqué que plusieurs journaux avaient traité l'information. Donc Jean-Pierre Marielle a 77 ans, vous
73 et demi.
Vous avez 73 et demi, Duchossois 71, Jean-Pierre, alors lui, il cavale devant vous, il en a 85. Vous êtes tous les quatre sur scène, il y a tous les quatre avec succès. Alors est-ce que ça veut dire que ça rassure un peu le public de vous voir encore sur scène? Est-ce que quelque part, il est en train de se dire finalement, le monde ne bouge pas tellement, ces quatre-là sont encore là, ils sont avec nous depuis, ils représentent la qualité, le monde n'est pas pourri, on peut encore croire en quelque chose. Il y a quelque chose de ça ou pas?
Écoutez, peut-être, sûrement, c'est réconfortant de voir des gens assez âgés aussi bien jouer que tout simplement avoir de la vitalité dans la vie courante. Tout le monde se dit « Ah bon, j'ai encore quelques années peut-être à tenir le coup et à pouvoir faire le zèbre. »
Franchement, quand on vous voit tous les quatre, là, je n'ai pas encore vu Marielle, mais les trois autres, donc, on ne se pose pas du tout la question. Là. On a l'impression que vous êtes dans la plénitude de votre métier. Que
oui,
il y a une espèce de sagesse, il y a même une espèce de recul qui fait que vous donnez plus, en fait.
Oui, peut-être. On est plus expérimenté, on a plus de métiers, comme on dit, et oui, petit à petit, je ne sais pas si on est meilleur à 70 ans qu'à 30, mais enfin, oui, il y a une maturité qui se fait comme ça, qui est, je pense, agréable à constater.
Alors, quand vous entendez quelqu'un dire « Michel Aumont a mené une très très grande carrière, très belle carrière, mais discrètement », vous le recevez comment ça ?
Discrètement, je le reçois plutôt bien. Moi, j'ai fait du théâtre pour me cacher. Je suis acteur pour qu'on ne me voie pas, parce que quand on est en scène, on n'est pas soi-même. On est un autre. Et donc, c'est bien, on peut briller à bon compte, être un grand personnage, soit blanc, soit noir. Mais enfin, voilà, un grand personnage, un héros ou un anti-héros. Mais voilà, on prend tout d'un coup une dimension qu'on ne se connaît pas donc obligatoirement soi-même. Et donc, c'est très valorisant. Moi, j'étais donc un grand timide enfant. J'étais très timide, très secret, très solitaire. Et donc, j'ai fait aussi du théâtre, pas parce qu'on m'a bien entraîné par mes parents, mais aussi parce que tout d'un coup, je pouvais être, je ne sais pas, un grand héros du théâtre classique, jouer Scapin, jouer n'importe quoi. Bref, quand j'avais 14 ans, la première scène que j'ai choisie, je vous jure que c'est vrai, j'avais 14 ans, c'est Ferrante de la Reine Morte. Voilà, on m'avait dit, choisis le texte qui te plaît, que tu voudras, j'ai choisi ça. Alors, je trouvais ça formidable de représenter un personnage de cette dimension, n'est-ce pas? Et moi, après, une fois que j'avais fini ma scène, je redevenais un petit garçon tout à fait banal et un peu tout seul, et voilà.
Autrement dit, je me suis trompé dans le sujet de l'émission. Il aurait fallu laisser tout ce qu'on a dit de côté et vous poser la question, Michel Aumont, qui êtes-vous ? Chancel, 1, 2, 3, et Dieu dans tout ça, c'est ça ?
Oui, et ben c'est Dieu dans tout ça. On peut dire ça, oui, parce que je ne suis pas croyant, entre guillemets. Je ne suis pas du tout pratiquant, mais c'est quelque chose qui est là, qui est indicible, qu'on ne sait pas. Mais c'est comme, il y a quelque chose par là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On est dans le schwarz, hein. Tout le monde est dans le schwarz, y compris les plus grands esprits. Aucun humain n'a résolu le problème. Tout le monde cherche le grand secret, le grand mystère.
Mais est-ce que la magie du théâtre, c'est de permettre de s'approcher un petit peu de tout ça, ou de rôder autour?
C'est pas seulement la magie du théâtre, c'est la magie de l'art.
De l'art.
De l'art, hein, la peinture, la musique, la littérature, la poésie. On approche par ces choses-là, on approche du secret, du mystère. Oui.
Autrement dit, on tourne autour de la mort d'une manière ou d'une autre.
On tourne autour de la mort, voilà.
D'où la dignité de...
Je viens de dire un truc formidable, c'est un type qui a entendu au moment où on le torturait, et il a entendu « Ne t'inquiète pas, moi aussi, je suis passé par là. Même si tu meurs, tu ne mourras pas. »
C'est une chute, je suis obligé d'arrêter l'émission là-dessus.
C'est pas mal, non?
C'est une très très belle chute. Hein. Alors, je rappelle donc que vous êtes actuellement à l'affiche du Théâtre de l'Œuvre, dans une pièce de Lionel Colstein intitulée David et Edouard, mise en scène par Marcel Bluval. Une pièce qui restera, je n'hésite pas à le redire, très probablement comme l'un des deux ou trois principaux événements de l'année théâtrale 2009-2010. Je vous signale d'ailleurs que le texte de cette pièce est disponible en librairie. Il a été publié par l'avant-scène Théâtre. C'est c'est le numéro 1275 du 1er janvier 2010, numéro 1275 du 1er janvier 2010. Michel Aumont, merci.
Merci.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.